C'est l'été, c'est la période des festivals. Depuis maintenant plusieurs années, de nouvelles formes de festivals de théâtre émergent un peu partout en France. En Bretagne, en Anjou, en Aquitaine ou en Corse. Ils sont nés dans des jardins, ils sont imaginés, organisés et rêvés en collectif. Ce qui se réinvente avec eux, c'est une manière nouvelle d'amener le théâtre par les villages, en extérieur. Ils donnent à voir et à entendre Shakespeare, Edmond Rostand ou Odon von Horvath en plein air, sur les places ou sous les arbres, devant un public de plus en plus nombreux. On parle de dizaines de milliers de spectateurs. Ce qui s'invente aussi là, c'est une forme nouvelle d'artisanat de la culture qui réveille en mineur le projet de la décentralisation théâtrale de l'après-guerre. Ces festivals s'appellent le Nouveau Théâtre Populaire, Pampa, la Mostra Théâtrale, le Théâtre du Roi de Cœur ou le Linceus Festival. On en parle en première partie avec trois de leurs organisateurs. En seconde partie, nous faisons le portrait de l'écrivain Régis Geoffrey, auteur des Microfictions 2018. Bonjour Lola Lucas.
Bonjour.
Vous êtes l'administratrice du Nouveau Théâtre Populaire créé en 2009 qui se déroulera à Fontaine-Guérin en Anjou du 18 au 31 août. Bonjour Mathieu de Sertine.
Bonjour.
Vous êtes comédien, le festival Pampa aura lieu du 8 au 15 août au lieu dit Calabre à Port-Sainte-Foy et Pontchat en Dordogne. Il a été créé en 2014. Et bonjour Clara Schwarzenberg.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, le festival du Roi de Cœur, le Troc, se tient jusqu'à aujourd'hui à Morins en Nouvelle-Aquitaine et il a été créé en 2013. À l'origine de vos trois festivals dont je parlais en introduction, il y a trois histoires de jardins. Est-ce que vous pourriez nous faire le récit de ces trois histoires de jardins ? Mathieu Dessertier.
Oui, ben, j'ai commencé.
Pour déjà, le festival Pampa.
Exactement. C'est déjà aussi pour ça qu'on s'appelle Pampa. On a trouvé ce nom dans un livre de Borges qui s'appelle l'Aleph. Pampa, c'est les terres pleines, les grandes terres. Et nous, on travaille beaucoup avec l'horizon. Notre jardin, c'est notre décor. C'est un décor naturel sublime. Il est bordé de forêts, de collines, etc. Mais on voit le soleil se coucher, on voit la nuit se lever. Et c'est un double horizon, c'est-à-dire c'est un horizon à la fois pour nos spectateurs, c'est le premier cadeau qu'on leur fait quand ils arrivent ici, ils se souviennent du lieu, et aussi pour nous, parce que on voit dans cet horizon ce que est en train de devenir notre festival. Et notre jardin, voilà, c'est une étendue et c'est ce qu'on aspire à devenir, à grandir tous les ans. C'est ça Pampa, c'est ça notre jardin.
Et c'est un seul espace ou il y en a plusieurs ?
Alors c'est un seul espace, mais on peut jouer sur plusieurs endroits, on fait beaucoup des spectacles déambulatoires. Et c'est un seul espace, mais il y a un endroit où il y a une pinède, un endroit où on a construit une scène, un endroit qui est complètement libéré, qui est complètement dégagé. Donc ça, c'est au choix des metteurs en scène. Ils décident de quel espace ils vont choisir chaque année.
Lola Lucas, pour le Nouveau Théâtre Populaire en Anjou, quel est le jardin ?
Alors nous, c'était une maison qui appartenait à la grand-mère d'un des comédiens du collectif. Et donc c'est en plein centre-bourg. Il y a une maison, on s'appelle d'ailleurs maintenant aujourd'hui la Maison du Théâtre, le lieu. Et derrière cette maison, donc, y a un jardin qui n'est pas visible depuis le centre du village. Donc un peu comme ce que raconte Mathieu, c'est-à-dire qu'il y a aussi pour les spectateurs la découverte d'un lieu caché, quelque chose comme ça qui n'est pas donné au regard de tout le monde. Et voilà, rentrer dans la maison du théâtre, c'est aussi découvrir ce lieu. Et quand on est dans le jardin, pareil, on a construit un plateau et donc on a vu sur le clocher de l'église et le cimetière sur la gauche et le coucher de soleil sur la droite. Et c'est dans ce décor-là qu'on joue... nos spectacles.
Et vous, Clara Schwarzenberg, pour le Troc ?
Pour le Troc, c'est dans le jardin du Nouveau Théâtre Populaire que Chloé de Broca et Félix Bonperrin ont rêvé de leur propre jardin théâtral. Ils revenaient du Festival d'Avignon où ils avaient eu beaucoup de plaisir à être, mais ces jeunes gens s'étaient dit que ce n'était pas tout à fait leur rêve de théâtre et c'est au NTP qui se sont dit mais nous, on préfère ce genre de théâtre où les gens restent à regarder Shakespeare même s'il pleut avec leur caouet. Et il se trouve que c'est aussi une aventure familiale. C'est dans le jardin d'une famille, de la sœur de Félix, qui leur a dit, bah, écoutez, moi j'ai un beau et grand jardin, si vous faites ça bien, faites-le à la maison. Donc on est dans une maison de famille. Derrière le plateau qui est construit par le plus grand des frères, il y a deux arbres qu'on éclaire et qui rend à chaque fois les choses magiques.
Donc ça part d'un point de départ familial en fait à chaque fois.
Oui.
Quelle est la spécificité de jouer en extérieur ? Est-ce que ça présidait au désir de monter ces festivals à chaque fois ? Est-ce que c'était un désir qui était déjà présent chez chacun de vous ?
En fait, l'extérieur offre beaucoup de liberté dans la création. Il enlève une contrainte technique que le théâtre ou la boîte noire a, c'est-à-dire que il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de technique à gérer en répétition. Et donc, en fait, il y a les acteurs, le metteur en scène et le public. Et donc ça permet, le plein air en fait est aussi le résultat d'une situation économique et donc en fait il permet de répéter plus vite que dans des salles.
Il permet de répéter plus vite et il permet aussi d'exporter un spectacle dans un jardin, mais aussi sur les places de village et de faire des spectacles un petit peu tout terrain pour toujours aller plus à la rencontre d'autres villages ou d'autres personnes qui sont autour de nous. Et ça, c'est un beau rêve d'avoir des spectacles qui peuvent se produire un petit peu partout. On prend un bout de bois, on met une table, deux chaises, trois costumes et la magie peut se créer, se révéler à tout endroit.
C'est l'idée ou plutôt la nécessité d'un théâtre pauvre qui était là au départ ? De faire du théâtre avec pas grand-chose ?
Ouais, c'était l'idée de retrouver un champ d'expression libre aussi, de créer des spectacles hors des contraintes qu'on a l'habitude de recevoir quand on travaille dans le théâtre public ou dans les écoles d'où on vient aussi, de retrouver une manière de produire des spectacles du début à la fin, en s'essayant à tous les corps de métier, en produisant des œuvres qu'on a envie de produire et en rapport avec ce que aussi... on a l'impression de sentir les demandes des spectateurs. Voilà. Mais on est libre, absolument libre. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Et c'est ça qui nous a motivés, je crois, tous les trois et tous les festivals émergents. Là.
Oui, et cette pauvreté, elle amène aussi à une créativité particulière qui tient peut-être de l'ordre de l'enfance, j'y pense régulièrement, puisque avec un bout de bois, on peut vous faire croire à tout, à une épée, à un bateau, à n'importe quoi. Et ça exige évidemment de notre part une inventivité toujours renouvelée et un amour de notre art et de notre artisanat.
Et c'est une manière aussi de revenir à l'origine du théâtre, en se disant qu'avec un bout de bois, on peut faire un peu tout et... Enfin,
oui.
Évoquer tout.
Alors, je ne sais pas si on revient à l'origine ou si on pense au théâtre grec à chaque instant. Peut-être que revenir à l'origine du théâtre, c'est à chaque fois repenser à cette à la nécessité de la coprésence, le fait que le théâtre est un des rares arts à avoir, à être le rempart aujourd'hui peut-être du monde des écrans, de l'éloignement. Et en tout cas, personnellement, je le sens plus dans cette histoire de présence et avec tout le monde.
Ouais. Et je pense que c'est ce que nos spectateurs ressentent. C'est ce que nos spectateurs ressentent, c'est-à-dire que ce désir-là, c'est une vraie nécessité pour nous. Personne nous a demandé de venir monter nos festivals, et je pense que les spectateurs voient cette nécessité, cette honnêteté, ce travail, le fait qu'on ait bâti de rien un festival dans des endroits où il y en a pas beaucoup, où parfois la culture est un peu manquante, même si elle est là, même si on vient pas apporter la culture nulle part. On vient apporter un savoir-faire et ce qui est beau, c'est le mélange, cette rencontre avec nos spectateurs. Que la culture, elle naît de ce que nous, on propose et de ce qu'ils vont en faire, eux aussi. Et évidemment, le NTP, le Troc ou Pampa ou les autres, c'est d'abord une affaire de rencontre, une affaire de lien avec ces territoires.
L'autre particularité de tous ces festivals, c'est la question de la collectivité. C'est des entreprises qui sont toutes collectives. Est-ce que ça aussi, c'était dès l'origine de tous les projets, Lola Lucas pour le NTP ?
Non, nous, ça n'était pas à l'origine. Ça a été, on s'est construit petit à petit en collectif. On avait des metteurs en scène dans notre groupe qui avaient déjà leur compagnie, qui ont souhaité monter cette entreprise-là, qui ont invité les comédiens avec qui ils travaillaient déjà à l'époque à rejoindre ce groupe. Le groupe s'est constitué, il a grandi au fil des ans. On était 10 au début et maintenant on est 20 membres. Et puis, il y a eu une année charnière assez rapidement, deuxième ou troisième année, où il y a eu la question de la direction. Et assez naturellement, on s'est dit qu'on voulait être tous co-directeurs. Ce qui pour nous aussi était une nouvelle aventure politique qui changeait du fonctionnement qu'on connaît dans l'institution ou même dans les compagnies, même les plus petites compagnies qui sortent d'école ont souvent un directeur artistique. Et voilà, je crois qu'on avait envie d'expérimenter autre chose, que l'aventure soit autant artistique que politique et politique même... micro-politique, c'est-à-dire on est 20 personnes et on décide de tout comme une démocratie, donc on a tous le droit de vote, ce qui donne lieu à de longues discussions.
Et ça marche, oui, c'est la question que j'allais poser.
Ça marche, on a beaucoup appris au fur et à mesure des années à s'écouter, à se cadrer les uns les autres, et puis on a aussi, voilà, comme on disait en introduction, il y a un artisanat et... cette troupe est composée, la majeure partie sont des artistes, mais ils sont amenés à faire des choses qui ne sont pas leur corps de métier, qui ne sont pas juste être comédien quand ils viennent là. Et du coup, on s'est répartis sous forme de pôle. Donc chacun a ses missions. Donc on a une comédienne qui gère le bar. Chaque année, c'est sa responsabilité. Il y en a qui gèrent l'aménagement, les travaux qu'on a à faire, etc. dans la maison.
Clara Schwarzenberg, pour l'organisation du Troc, c'est aussi un collectif?
Alors oui, il y a une notion de collectif, mais pas de la même manière. Il y a quand même, on va dire, des rôles attribués. Il y a deux meneurs, mais les choses, les décisions, les propositions se font de manière plutôt horizontale. On a très souvent des réunions, tant que faire se peut, dès qu'on arrive à se réunir dans l'année, ce qui n'est pas forcément facile. Chacun a plusieurs casquettes, chacun est aussi ouvreur, chacun peut devenir barman, évidemment. Chacun met la main à la pâte pour construire les décors, ou alors passe au pôle costume, ça évidemment. Il y a tout de suite eu en revanche une pensée de troupe. Ça a été très vite au départ. Il y a une équipe qui a été recherchée et créée par Chloé et Félix. Et d'autre part, il y a aussi, on s'appuie aussi sur les gens là-bas, tout simplement. Il y a quand même 60 bénévoles qui travaillent avec nous. Je trouve que ce chiffre est magnifique. Il est assez énorme. Et on les appelle les fous du roi. Et je crois que c'est assez important pour eux de...
Bénévoles qui viennent de la région?
Oui, qui viennent de la région. Il y en a qui disent, là j'ai relu un petit peu le livre d'or avant de venir, que ce soit parmi les bénévoles ou parmi les spectateurs, il y a des gens qui choisissent leur date de vacances par rapport à nous. C'est assez impressionnant. Et donc, il y a une collectivité qui est complètement organisée autour du festival et pour faire en sorte que cette utopie existe.
Mathieu Dessertine, pour l'organisation du festival.
Ça ressemble un peu au NTP. Pareil, on a un collectif, on fonctionne par pôle. Les places changent d'année en année. On peut être acteur, on peut être metteur en scène, on peut s'essayer à la mise en scène, on peut s'essayer à plein de choses. Donc c'est un petit peu la même organisation. Ouais.
On écoute la voix d'un ancien ministre de la Culture.
Il était entendu il y a 130 ans que la plus grande actrice française ne pouvait pas jouer dans cette ville parce qu'il n'y avait personne pour l'écouter. Vous êtes tous ici, et combien d'Amiénois seront là après vous? Vous êtes plus nombreux comme abonnés de cette maison qu'il n'y a d'abonnés à la Comédie française. À Bourges, qui a 2 ans d'existence réelle, il y a 7 000 abonnés, et Bourges a 60 000 habitants. Rien de semblable n'a jamais existé au monde sous aucun régime. Jamais 10% d'une nation ne s'est trouvé rassemblée dans l'ordre de l'esprit. Il n'y aura pas de maison de la culture sur la base de l'État, ni d'ailleurs de la municipalité. La maison de la culture, c'est vous. Il s'agit de savoir si vous voulez le faire ou si vous ne le voulez pas, et si vous le voulez, je vous dis que vous tentez une des plus belles choses qu'on ait tentées en France, parce qu'alors, avant 10 ans, ce mot hideux de province aura cessé d'exister en France.
C'est la voix d'André Malraux, ministre de la Culture à l'époque, lors de l'inauguration de la Maison de la Culture d'Amiens en 1966, où il dit quand même ce mot hideux de province aura cessé d'exister en France. On peut méditer longtemps, sur 50 ans après, sur cette formulation. Comment vous la recevez, cette archive-là, et surtout autour de la notion qui a été lancée aussi par André Malraux, qui était reine à cette époque-là, qui était la notion de décentralisation en regard avec vos festivals?
Ce que je voudrais dire déjà, c'est que on n'est pas le fruit, nous, d'une politique de décentralisation. Et c'est ça qui est important. On est le fruit d'initiatives collectives, personnelles, artistiques. On est mû par ce désir-là. Et on est pérenne. On a existé. On existe sans ça. Bon, on a besoin d'aide. Mais on l'a fait. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à cette question des marges de la province, c'est j'ai le sentiment que les aventures artistiques, elles se vendent souvent à côté du centre. Et nous, c'est un peu, j'ai l'impression, ce qu'on est en train de créer. On n'a pas abandonné le centre, etc., mais on a voulu faire quelque chose qui est pas utopique, parce qu'il y a toujours une demande, quoi. On est venu s'implanter quelque part parce que c'était des territoires d'où on venait et qu'on aimait, et on voulait les redécouvrir autrement, quoi, et avec notre savoir-faire. Donc,
parce qu'une des particularités qui aussi fait signe vers la décentralisation, c'est que dans la plupart de vos festivals, ce sont des gens, oui, qui ont fait des grandes écoles, ou en tout cas des écoles de théâtre prestigieuses à Paris, et qui sont allés s'implanter quelque part en province. Vous, Lola Lucas, comment vous la recevez, cette parole d'André Malraux, sur la décentralisation, 50 ans après? C'est un peu lourd. Hein.
Oui, elle est. Non, mais la décentralisation a eu lieu depuis. Elle est effective et on est des enfants de la décentralisation. Nous, on a grandi avec cet accès-là. Ces scènes nationales sur tout le territoire, ces centres dramatiques nationaux, ça a fait notre éducation théâtrale, je pense à notre génération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces portes, elles sont un peu fermées, notamment pour la jeune création. Elles laissent peu de liberté, c'est un cadre qui est très lourd. Et je pense que il y a peut-être un mouvement qui est en train de se créer, qu'on s'amuse à appeler la décentralisation 2.0, et qui va plus loin. C'est-à-dire que les scènes nationales et les centres dramatiques, voilà, ils ont décentralisé de Paris à cette époque-là et ils sont allés en province, mais dans des communes, dans des villes. Et nous, on va plus loin encore, parce qu'en fait, on est dans des villages, on est dans des lieux-dits, on est dans on est dans une échelle qui est encore plus petite. Et voilà, nous, on situe en Anjou, par exemple, le théâtre le plus proche, c'est le CDN d'Angers, et c'est 35 minutes en voiture. Donc en fait, il n'y a pas la culture, la décentralisation telle qu'elle a été faite les 50 dernières années n'a pas amené la culture au bout des chemins. Voilà. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce qu'on essaye de faire.
Clara Schwarzenberg pour le Troc.
Alors, je rejoins complètement tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on peut y entendre aussi une description du Troc, de sa manière d'être, de faire et de ses objectifs. Et j'ajouterais donc bien sûr que le vœu de Malraux n'est pas encore abouti. Il faut encore qu'on y travaille. Et il y a une différence entre nos initiatives et en tout cas les maisons de la culture d'aujourd'hui ou les CDN, c'est qu'il me semble pas, contrairement à ce que souhaite Malraux, que ce soit des maisons qui appartiennent aux gens.
Quand il dit la Maison de la Culture d'Amiens, c'est vous.
C'est vous. Alors, au Troc, on essaye de faire en sorte que le festival, que les pièces qui soient créées, ça appartienne aux gens. C'est-à-dire que c'est leur spectacle. Alors, il y a une première déposition, c'est-à-dire que le metteur en scène fait en sorte que ça devienne le spectacle des comédiens. Puis au bout d'un moment, il faut que ça devienne vraiment leur spectacle à eux, qu'ils sentent qu'ils fassent partie de l'aventure de manière complète, intégrale, qu'il y ait une relation entre eux et le jardin, eux et nous, eux et la buvette, eux et le temps de la journée du festival qui soit vraiment intimement lié, abattre les frontières. Ça ne veut pas dire forcément que tout le monde devient ami, parce que parfois quand il y a 500 personnes, c'est difficile de rencontrer tout le monde, mais c'est à chaque fois notre souhait. Il y a évidemment le vœu dans la manière de monter les pièces, ce qu'on cherche à exprimer et de faire en sorte que ce soit en direction de tout le monde, y compris de l'ado, y compris de la personne qui n'est jamais allée au théâtre, etc. etc. Mais aussi dans le contenant, c'est-à-dire l'écrin du festival, et lui-même appartient aux gens, d'où l'importance aussi des bénévoles, d'inscription totale dans le territoire et chez les gens.
Une des conditions d'accès à la culture aussi, c'est quelque chose d'extrêmement pratico-pratique, qui est la question du prix. Et dans vos trois festivals, la particularité, c'est que vous avez des tarifs assez bas, pour aller vite entre 5 et 7 euros. Est-ce que c'est aussi une volonté qui présidait dès le départ dans la création de chacun de vos événements? De faire un théâtre qui coûte pas cher?
Ouais, c'était une des conditions de base. On voulait que ça soit accessible à tous. On voulait que les gens aient envie de revenir. On savait que ça allait nous permettre quand même de faire perdurer notre structure, etc. On avait envie de ça, on avait envie justement que les tarifs soient pas les mêmes que dans les grands centres urbains ou dans les théâtres dans lesquels on est habitué de jouer. Donc c'était une nécessité pour nous aussi.
Et vous sentez que ça a vraiment fait sauter une barrière pour les gens?
En fait,
Lola Lucas.
Comme dit Mathieu, le choix du prix... il a été fait pour que ce soit une barrière en moins. L'argent n'est plus la barrière qui fait qu'on ne va pas au théâtre. Mais je pense que la barrière la plus difficile, elle est mentale. Il y a des gens qui considèrent que le théâtre, c'est pas pour eux, qu'ils n'ont pas les clés, qu'ils n'ont pas été éduqués à ça. Et je pense que le plus gros chantier qu'on mène, c'est de dire à tous ces gens qu'on côtoie, nous, dans le village, etc., que bien sûr, le théâtre, c'est pour eux, et que surtout, nous, sans eux, on ne peut pas faire de théâtre. Donc on a besoin d'eux, et que le théâtre, ça parle à tout le monde, qu'on ait une culture énorme, qu'on comprenne du début à la fin, ou qu'on ressente juste une émotion à un moment, ça parle à tout le monde. Et c'est ça, le prix a été réglé, la question de l'argent a été réglée d'abord, mais je pense que cette question-là de faire entendre aux gens que le théâtre, c'est pas pour une niche, c'est pas que pour les élites. C'est ça le travail qui reste à faire.
Est-ce que vous avez eu des retours de spectateurs qui n'étaient jamais allés au théâtre et qui sont allés dans vos festivals ?
Oui. Oui, beaucoup. C'est peut-être les retours les plus touchants. Bah, par exemple, c'est une famille qui dit qu'elle a eu beaucoup de mal à traîner le grand ado. Ça a l'air d'être une histoire typique, hein, mais c'est, je pense que vous l'avez vécu aussi. Donc, beaucoup de mal à traîner le grand ado qui avait absolument pas envie d'aller voir Roméo et Juliette, par exemple, et qui, le lendemain, ramène ses potes pour aller voir les Fédos parce qu'il s'est éclaté et que c'était génial, comme ils disent. Ça, c'est formidable. Ou alors aussi, voilà, des jeunes gens qui demandent quand est-ce qu'on va monter du Racine. Enfin, on les croise comme ça à Bergerac. Et c'est merveilleux. Il y en a énormément, oui.
Et puis des spectateurs qui deviennent amis du festival, des gens qui étaient très peu ou jamais allés au théâtre, qui se mettent à vouloir participer, venir pendant les répétitions, devenir bénévoles. On a plein d'exemples comme ça. Ça, c'est fabuleux. C'est aussi pour ça qu'on le fait.
C'est aussi une manière de les faire participer à la production. Ouais. Et les impliquer aussi dans le théâtre et de montrer que c'est quelque chose qui fonctionne aussi ben justement selon un principe artisanal.
Exactement, je pense que l'artisanat, c'est là où on peut dialoguer avec les gens, en tout cas dans les villages, dans les campagnes dans lesquelles on est, parce que ça, c'est quelque chose qui leur parle. L'artisanat, et puis pour eux, ça a de la valeur. Nous, on a beaucoup d'artisans autour, dans le village dans lequel on est, avec qui maintenant on travaille. Et voilà, le fait de nous considérer comme des artisans, je pense que ça les effraie moins. Je pense que la position de l'artiste, pour eux, elle est élitiste. Et donc, c'est vrai qu'on aime bien, je pense que c'est là aussi où on se retrouve, voilà, dire qu'on est des artisans et leur montrer qu'en fait, on pratique un art qui est différent du leur, mais que celui qui est charpentier, nous, on a tout autant d'admiration pour lui, et ce qui fait qu'on ne serait pas capable de le faire, et qu'en fait, on peut travailler ensemble et échanger nos pratiques.
Et on a besoin de travailler ensemble, par exemple, nos gradins, ce sont des bottes de foin. Donc à un moment donné, il faut bien trouver autour de nous qui sera assez aimable et disponible pour pouvoir nous les prêter. À chaque fois, on trouve, on travaille avec les menuisiers, on travaille avec le service technique de la mairie. Et c'est vrai que la barrière artiste-artisan, elle a été très importante à briser.
Et puis c'est une question de confiance aussi, c'est-à-dire que... quand on travaille avec des menuisiers, avec des producteurs locaux, quand on vend des légumes qui ont été produits à côté, à notre buvette, etc., oui. Ça donne aussi à ces gens l'idée qu'on est venu là pour travailler avec eux, que le théâtre a besoin d'eux, et ces gens-là, ça devient des spectateurs fidèles, quoi.
Ouais. J'ai une question maintenant extrêmement triviale, c'est financièrement, comment vous arrivez à vivre ? Comment ces festivals-là fonctionnent ?
C'est là où la politique tarifaire, à laquelle je pense que nos trois festivals ne dérogeront jamais, est un véritable défi. Parce qu'en tout cas, en s'agissant du troc, c'est à peu près notre seule source de revenus, avec quelques achats de spectacles également, grâce à des associations, notamment des associations de profs du coin, des lycées, la ville de Bergerac, la ville de Morins, qui nous soutiennent par des achats, mais qui sont pas forcément au prix fort. On a une aide du département qui est de 2 000 euros, sur un budget de 90 000 euros. Voilà. Donc je pense que ça brosse un petit peu le défi financier que représente le festival.
Lola Lucas pour le Nouveau Théâtre Populaire.
L'économie, elle reste très précaire, je pense, pour tous ces festivals. Nous, on est soutenus par la direction régionale de la culture, par notre région, par notre département et par notre communauté de communes, qui nous soutient d'ailleurs à double titre, parce qu'en fait, ils ont racheté le lieu dans lequel on est. Donc maintenant, c'est un lieu public qu'ils nous ont délégué en gestion. Donc ça, par exemple, c'était un investissement colossal pour une commune de 7 000 habitants d'investir dans un terrain à 200 000 euros. Je pense qu'ils se sont endettés pour les 10 prochaines années. Et ça va vraiment à contre-courant d'un point de vue d'investissement des politiques, de ce qui se fait ailleurs en France, de ce qui se fait d'ailleurs globalement en France. Donc on a cette forme de soutien, mais le budget est toujours extrêmement précaire. Et en parlant du tarif, nous, on expérimente cette année pour la première fois un tarif au choix. Et c'était aussi une façon de garder notre tarif à 5 euros auquel on tenait depuis 9 ans, mais aussi d'alerter notre public sur le fait que le théâtre ne peut pas coûter 5 euros, en fait. C'est-à-dire que tous ces artisans qui voient sur un plateau, ça a un coût. Et ça, ils l'entendent, parce que quand on parle de coût de main-d'œuvre, etc., les artisans, ils comprennent cette chose-là. Et donc, voilà, on a cette tarification au choix qu'on a ouvert, donc 5, 10 ou 15, permet aux gens, même si certaines personnes continuent de choisir le tarif à 5, et nous, on leur dit que c'est absolument libre, sans justificatif, mais ça leur permet, en tout cas, de prendre la mesure de la difficulté économique.
Mathieu Dessertine pour Pampa.
Nous, on est également un tout petit peu soutenu par la région à hauteur de 2000 euros et le département 1000 euros. Et évidemment, donc, ça ne nous permet pas de nous rémunérer. On est tous bénévoles pour l'instant à Pampa. Et on cherche des financements qui ne soient pas seulement publics. On cherche des mécénats. On a des amis du festival qui nous aident aujourd'hui à survivre, à perdurer. Mais pour l'instant, on n'est pas capable encore de rémunérer tous les artistes. Et c'est évidemment notre ambition. Et on sait que pour ça, on va avoir besoin d'aide. On est dans un endroit où on aura du mal à dépasser un certain nombre de spectateurs. On est proche des villes, mais quand même bien dans la campagne. Et du coup, on sait qu'on aura besoin d'aide. Ouais.
Et comment l'institution publique théâtrale, c'est-à-dire les scènes nationales ou les centres dramatiques nationaux, ou même le ministère de la Culture, vous regarde? Est-ce que vous avez des interactions avec eux ou pas du tout?
Oui, nous, on en a. On travaille un peu avec le CDN d'Angers. Qui a d'ailleurs accueilli plusieurs fois des spectacles en reprise en salle. Mais en fait, ça génère un nouveau coup parce que, comme on disait, nos spectacles sont créés en plein air. Donc en fait, ils ne sont pas du tout faits pour être joués en intérieur tel quel. Et puis, ce n'est pas totalement la volonté, en tout cas au Nouveau Théâtre Populaire. On a vraiment un désir d'implantation, de rayonnement et ce qu'on appellerait la décentralisation des 3 km, c'est-à-dire vraiment au plus proche. La question, c'est plutôt la position du ministère vis-à-vis de ça. Je pense que les choses sont en train de bouger. En tout cas, les discours récents de la ministre de la Culture sont...
Sur les zones blanches, notamment.
Voilà, sont très encourageants. Après, la réalité des choses, c'est qu'entre le discours d'une ministre et une application sur le terrain, il se passe plusieurs années.
Nous, notre difficulté d'application, merci, sur le terrain, c'est que pour soulever les aides réelles dont nous aurions besoin, il faudrait qu'on y travaille à l'année. Mais c'est un problème, c'est comme le serpent qui se mord la queue, puisqu'il y a une réelle difficulté économique pour nous à y travailler à l'année. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler bénévolement ou presque bénévolement 2 ans d'affilée pour pouvoir enclencher ce cercle vertueux. Ça, c'est notre difficulté concrète actuelle.
Dans la particularité de tous vos festivals aussi, c'est la question des textes. C'est-à-dire, quels textes vous présentez et comment ça s'organise? Le Nouveau Théâtre Populaire, vous avez fait le choix, puisque c'est de votre 10e saison cette année, de porter Balzac sur scène. Comment le choix de répertoire opère ou est opéré?
En fait, on est parti au tout début du festival sur des textes classiques. On voulait aborder des œuvres dont on se disait que les gens... on aurait entendu parler dans l'image ces œuvres-là qui font partie du patrimoine collectif. Donc on a commencé par Shakespeare et Molière. Et puis petit à petit, on a vu que les gens nous suivaient et nous suivaient pas seulement pour le titre qu'il y avait sur l'affiche, mais pour la troupe qu'on était. Et on a souhaité jouer de plus en plus de contemporains. Donc on a joué par exemple du Novarina. Et on s'est aussi expérimenté aux écritures collectives de plateau, notamment sur un spectacle qui retraçait l'histoire de la Ve République à travers les présidents de la Ve République. Et notamment ce spectacle, où l'année dernière on a aussi fait la guerre de 14-18, ont été des succès bien au-delà de ce qu'on espérait, alors qu'il n'y avait pas de nom d'auteur sur l'affiche.
Des créations,
mais parce que c'est des sujets populaires, c'est-à-dire que en fait les Français aiment la politique, donc leur parler, retracer à partir de Gaulle, ils aiment ça. La guerre 14-18, ils ont tous un grand-père, un arrière-grand-père, etc., qui leur a raconté des anecdotes. Donc en fait, tout ça, c'est des sujets qui les touchent intimement. Et voilà, et cette année, c'est né de la volonté des metteurs en scène. Enfin, ça vient toujours de la volonté des metteurs en scène qui font une proposition à la troupe. Et voilà, il se trouve que là, ils étaient plusieurs à vouloir adapter des romans de Balzac. Et on s'est dit que pour notre 10e édition, pour la première fois, on allait aussi avoir une programmation qui avait un fil conducteur, ce qui n'était pas le cas les années auparavant. On pouvait se faire côtoyer Feydeau et Shakespeare dans la même année. Et là, d'avoir le fil conducteur, un parcours aussi pour les spectateurs. Et puis, il y a aussi peut-être une petite histoire générationnelle, c'est-à-dire cette idée de série. Comme on est aussi la génération des séries télé. Le fait d'avoir plusieurs romans du même auteur, il y a des personnages qu'on retrouve d'un roman à un autre. Les deux spectacles qu'on va jouer le soir, Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes, sont en fait la trajectoire du même personnage, Lucien de Rubempré. Et artistiquement, pour nous, c'est extrêmement riche. Ça permet aux acteurs de traverser des grands rôles sur plusieurs soirs. Et j'espère pour le public que ça leur donnera l'envie de venir voir la suite.
Mathieu Dessertine, pour le festival Pampa.
Nous, cette année, on a 3 créations. Macbeth de Shakespeare, Casimir et Caroline de Von Horvath et Natural Beauty, qui est un mélange de textes de taureaux et des Indiens des États-Unis. On invite une compagnie. Tous les ans, on invite des compagnies de la région. Cette année, ils vont venir jouer Tartuffe. La compagnie s'appelle Asma. On a un spectacle équestre du Poney Club de la ville qui est à côté. 3 concerts. et on fait des ateliers pour enfants, deux ciné-concerts. Et cette année, on organise pour la première fois un repas sur notre journée d'ouverture pour parler du festival avant même que les spectacles commencent. Donc demain, le 8 août, on organise ce premier repas. Ensuite, il y a des concerts et les metteurs en scène viendront parler de leur spectacle. Et notre programmation, nous, elle se fait un peu en rencontre aussi, comme je disais tout à l'heure, avec les spectateurs. On n'a pas forcément une ligne conductrice, on s'adapte et puis c'est un espèce de mélange entre les désirs des metteurs en scène, nos désirs particuliers et l'attente qu'on voit de nos spectateurs.
Et vous, Clara Schwarzenberg, pour le Troc, bon, il ne reste plus qu'une date, c'est ce soir.
Oui, alors ce soir, c'est Cyrano de Bergerac, mis en scène par Chloé. C'est le premier spectacle qui a été monté, parce qu'on n'est pas très très loin de Bergerac, et que c'est un personnage qui parlait de valeurs qui sont peut-être aussi les valeurs de notre festival. Et on fait également des allers-retours entre des auteurs qui vont être plus connus, qui vont plus parler, qui pouvaient être des accroches, notamment pour les premières années. Et aujourd'hui, on ouvre également à des... par exemple, Joël Pomera, qui est joué cette année. Il y a aussi, depuis l'année dernière, des performances de nos amis de Chant Libre, hein, qui viennent en troupe invitée produire ces performances qui sont pour le coup un genre qui n'a pas encore été rencontré, je pense, avant le Troc par nos spectateurs. La programmation est faite à partir des propositions des uns et des autres. Moi, je veux monter ci, moi, je veux monter ça, voilà ce que je veux faire, voilà mon rêve. Et de manière assez collégiale, il y a une... la programmation parfaite de l'année qui se dégage avec souvent un thème qui peut se dégager. Voilà. Merci. L'amour, le mariage, la tromperie, etc.
Merci à tous les trois. Clara Schwarzenberg, le Troc, c'est jusqu'à ce soir à Morins en Nouvelle-Aquitaine. Merci Lola Lucas, le nouveau théâtre populaire, c'est à Fontaine-Guérin en Anjou du 18 au 31 août. Et merci Mathieu Dessertine, le festival Pampa. C'est à partir de demain, le 8 août jusqu'au 15, au lieu dit Calabre à Port-Sainte-Foy et Pontchart. Citons aussi les autres festivals, le Lynceus en Bretagne et la Mostra Théâtrale, c'était en juillet, et aussi le festival Y'a pas la mer en Bourgogne. Vous écoutez France Culture, il est 13h19, nous venons d'écouter le titre Cracker Drool du groupe God Girl. On vous invite à regarder le clip, il est cruel.
France Culture, la grande table d'été. par Romain de Bec-de-Lièvre.
C'est l'histoire d'un drone qui filme à leur insu la vie sexuelle de tous les voisins. Les drones se multiplient, ils forment des essaims, puis sous l'effet de leur surpopulation, ils disparaissent, comme des animaux. C'est une histoire et une voix parmi 500 histoires de sexe, de violence, d'héritage, de filiation cassée, d'enfants cruels, de parents indignes et de nouvelles technologies. Mais aussi 500 histoires d'objets, de carafes, de balcons, de métros et de bars. En 2018, les microfictions sont de retour. Bonjour Régis Geoffrey.
Bonjour.
Vous avez publié cette année Microfiction 2018 aux éditions Gallimard, 11 ans après un premier volume de Microfiction. Il a reçu au mois de mai le prix Goncourt de la Nouvelle. Et bonjour.
Bonjour, nouveau.
Pourquoi avoir récidivé 11 ans après et réécrire un nouveau volume de microfiction ?
Parce que c'était pour moi un souvenir de bonheur, l'écriture des premières microfictions. C'est pour ça que je me suis remis à les écrire et c'est un peu comme une toxicomanie, c'est revenir à un toxique qui m'avait réussi à l'époque au niveau du bonheur personnel et du bonheur d'écrire en fait. C'est peut-être là où j'ai vraiment le plus éprouvé le bonheur d'écrire, c'est avec ces textes.
Il est de quel ordre ce bonheur ?
C'est un bonheur, c'est le bonheur de la narration, c'est le bonheur de ces humains, vous savez, qui se racontent des histoires. Les humains qui se sont toujours racontés des histoires qui les intéressent. Donc c'est des histoires qui ont un côté un peu immuable parce que les humains s'intéressent un peu toujours à la même chose et en même temps pas du tout parce que l'époque change et donc ce que je peux remarquer dans ces histoires c'est aussi que l'époque a changé, c'est-à-dire que sans le rechercher vous avez une époque qui est complètement bouleversée par rapport à la première et c'est pas forcément les raisons que l'on croit. Parce que c'est pas forcément le visible, c'est pas les drones qui ont le plus changé notre vie.
C'est pas que les nouvelles technologies.
Qui se voient. Si, c'est les réseaux. Qui sont pas forcément des nouvelles technologies, parce qu'Internet existait en 2005 et en 2007. Mais les réseaux sociaux, même quand on n'est pas soi-même sur les réseaux sociaux, ont complètement changé la planète. Et les relations que peuvent avoir les gens entre eux au niveau planétaire. Et ça, je m'en suis aperçu après avoir écrit le livre, parce que ça imbibe toute notre vie, en fait. Même si on n'est pas sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'électricité...
Même si on n'y est pas.
Oui, parce que l'électricité, par exemple, a complètement changé la société. Et c'est pas parce que vous auriez refusé en 1910 d'avoir l'électricité chez vous que ça n'aurait pas été le cas.
Les microfictions, c'est aussi une forme assez rigoureuse. Là, il y en a 500, un chiffre rond. Elles sont classées par ordre alphabétique. Et il y a toujours cette forme qui est assez immuable, qui est d'environ une page et demie. À quoi vous sert ce cadre ?
C'est un cadre qui m'est assez naturel et c'est un cadre de liberté. C'est-à-dire que je me suis à nouveau jamais senti aussi libre, comme je disais que je me suis jamais aussi senti aussi bien en écrivant les microfictions, qu'avec ce cadre d'une page et demie. Parce que déjà, il est très court et donc on perd pas de temps. On raconte tout ce qu'on a à dire et on utilise le moins de mots possible parce qu'autrement, ça n'entrerait pas. C'est-à-dire que c'est des histoires qui, à la rigueur, pourraient être prises par d'autres et pourraient faire presque un roman chaque histoire ou une histoire beaucoup, beaucoup plus longue. Et donc, on raconte les choses en urgence. C'est comme si on fuyait, en fait. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre des heures pour raconter. C'est un peu, et je pense aussi que ça peut, de l'autre côté, ça peut être des lecteurs aussi qui n'ont pas le temps, qui veulent la substance tout de suite. Et moi, c'est cette substance qui m'intéresse, en fait.
Quel rythme d'écriture pour les microfictions ?
Là, c'est une par jour. Pour le premier tome, le tome qui était sorti en 2007, c'était des fois deux, trois par jour, parce que j'étais un peu enivré par cette possibilité d'en écrire plusieurs par jour. Mais là, c'est une par jour. Et c'est assez zen, en fait, d'écrire une histoire par jour, parce qu'on s'aperçoit en même temps qu'une journée, c'est assez long. Et écoutez, c'est une sorte de mode de vie d'écrire une histoire par jour, en fait.
Une sorte de développement personnel ?
On pourrait dire ça, oui, tout à fait.
On pourrait faire une typologie des microfictions, c'est-à-dire il y en a qui ont des formes assez particulières. Et une qui m'a frappé particulièrement, c'est l'utilisation que vous faites du twist narratif. c'est-à-dire du renversement de situation. C'est-à-dire que la forme courte vous permet aussi, à un moment, de retourner une situation. C'est-à-dire le personnage qui parle, on ne sait pas, par exemple, qu'il est médecin, et on se rend compte, au milieu de la nouvelle, qu'il est médecin. Est-ce que vous utilisez aussi ce suspense-là ?
Ça m'intéresse ce que vous dites parce que je me rends pas compte du tout de ce que je fais parce que déjà j'ai pas le temps. C'est-à-dire que je peux pas préméditer, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est le contraire de réfléchir. Une fois je disais à quelqu'un, il me disait mais je réfléchis, je disais ça sert à rien de réfléchir, on n'a jamais rien découvert en réfléchissant. Et là c'est encore moins le cas parce que si je préméditais les histoires, je pourrais pas les écrire, ça serait autre chose, mais j'aurais pas le temps de les écrire, ou alors ce serait comme des poèmes où je passerais des semaines ou des années sur les histoires. Non, là j'ai pas le temps de penser en fait. Pas le temps de penser, donc vous avez sûrement raison, mais je n'y avais pas pensé.
Ce sera pour les universitaires.
Voilà, exactement. Mais je pense que les universitaires font un travail extrêmement intéressant. Par contre, ce sont des travaux qui ne sont pas mis en avant dans les médias, mais c'est dommage. Je pense que c'est eux qui ont peut-être le plus à dire sur la littérature contemporaine, parce qu'ils passent du temps, tandis que les critiques des journaux n'ont pas le temps d'y passer. Mais je pense en effet que les critiques universitaires ont beaucoup de choses à dire, non seulement sur mes histoires, mais sur toutes les histoires qui paraissent et qui se racontent actuellement.
Il y a des gens qui font des thèses sur vous, des travaux de mémoire ?
Oui.
Vous les avez rencontrés ?
Oui, ça m'est arrivé, j'ai fait une... Il y a eu un séminaire à la Sorbonne, oui. C'était assez, assez, assez bizarre à entendre parce que, c'était ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y en a un qui a dit l'écriture geoffrétienne. Et il y a quelqu'un qui a dit non, on dit geoffrétiste. Ça m'a beaucoup amusé, ça m'a marqué.
Vous n'avez pas tranché?
Ah non, j'étais effaré qu'on puisse, ça m'a surpris, voilà.
Dans microfiction, il y a l'idée de micro-récit et il y a aussi l'idée de micro-fabulation, enfin, c'est-à-dire micro-mensonge. Est-ce que vous voyez le mot fiction aussi dans cette ambivalence-là ?
Je pense que la fiction, en définitive, est quelque chose de révolutionnaire. C'est quelque chose qui est un peu inadmissible aujourd'hui. Je pense que c'est une vérité qui se donne comme telle. Et c'est très bizarre. Je pense que la fiction, ça va devenir de plus en plus interdit et révolutionnaire. D'ailleurs, si vous regardez, le roman en ce moment prend plutôt la direction de la non-fiction, bizarrement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable d'être dans la non-fiction que dans la fiction. C'est-à-dire que vous pouvez parler du réel si vous restez dans la non-fiction. Si vous emparez du réel en parlant de la fiction... ça devient assez rapidement scandaleux.
La fiction serait un territoire de liberté totale pour vous ?
C'est un territoire de liberté totale. C'est pour ça qu'elle fait peur aujourd'hui, parce que aujourd'hui on confond la fiction et le réel. C'est-à-dire que c'est en cela que la fiction, je pense, est de moins en moins acceptée. C'est-à-dire qu'on en arrive à penser, par exemple, que des gens souffrent dans des fictions. C'est assez curieux, d'ailleurs, de penser ça. Et c'est très étrange, ça. C'est-à-dire que, la fiction, dans la littérature, n'est même plus censée exister, puisqu'on vous demande presque des comptes sur ce qui se passe dans la fiction. On dit, mais quand même, vous dites dans ce roman, bah oui, c'est un personnage. Dans 500 histoires, il y a tous les personnages de la création. Mais non, il faudrait malgré tout que ces personnages, même ceux qui sont les moins recommandables, restent dans le politiquement correct. Or, la littérature, c'est absolument le contraire. C'est une affaire de voyous, vu par cet angle-là. Proust était un voyou, Flaubert et tout le reste étaient des voyous par rapport à leur époque. Et aujourd'hui, les personnages de romans, c'est-à-dire que Raskolnikov de Dostoïevski devrait être politiquement correct. Alors je ne sais pas trop comment Dostoïevski aurait pu faire son compte, mais c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui.
On peut faire ce qu'on veut avec un personnage ?
Absolument. Absolument, vous savez, c'est un peu comme dans ces films où on voit des animaux chassés, etc., ou massacrés. Et à la fin, on dit, pour tourner ce film, aucun animal n'a été blessé. Tué. Voilà. Eh ben, la littérature, c'est ça. Il y a la fameuse phrase de Gilbert Lely, qui était le commentateur de Sade, et qui parlait donc des 120 jours de Sodome, où il se passe les pires choses qu'un homme ait pu imaginer. Et il écrit au matin du 121e jour, le langage étendra sa merci. Voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, il s'est rien passé. Voilà, et c'est cette subtilité qui est la pensée même, finalement. La pensée, c'est l'imaginaire. Vous n'avez pas de philosophie sans imaginaire. Vous n'avez pas de recherche possible dans l'imaginaire, puisqu'on va chercher quelque chose qu'on n'a pas. Donc c'est une fiction. Quand on cherche un médicament, quand on fait des recherches sur les astres, sur les molécules, c'est imaginaire au départ. C'est parce qu'on imagine qu'on va à la recherche de quelque chose. Et la littérature, c'est inventer des choses qui a priori n'existent pas. Et comme l'imagination humaine est très limitée, on s'aperçoit que c'est là où on tombe finalement sur des choses existantes. Et peut-être que si on est sincère et authentique, on tombe sur la réalité à l'état brut. Or, on n'aime pas la réalité à l'état brut. Ce qu'on n'aime pas, c'est le miroir. Ce qu'on voudrait, c'est un miroir déformant. C'est un miroir avec un logiciel qui arrange les choses. Et je pense que quand la littérature va jusqu'au bout d'elle-même, eh bien, elle présente aussi de la société une image qui peut avoir une netteté telle qu'elle est presque coupante.
Vous diriez que la fiction, c'est un objet de connaissance ? Enfin, c'est quelque chose qui permet de savoir ?
Je pense, oui.
Une forme de savoir, en tout cas.
Je pense que c'est une forme de savoir. Ça l'a toujours été. D'ailleurs, les philosophes se sont jamais trompés. Je crois que Deleuze a beaucoup écrit sur la bête humaine, par exemple, autant que je me souvienne. Et en revanche, les romanciers parlent peu des philosophes, vous voyez. Mais non, je pense que c'est un objet de connaissance. Parce que quand vous prenez la réalité, par exemple, je prends l'histoire, si vous prenez une histoire réelle et que vous allez la re-raconter et vous allez l'imaginer, c'est une réflexion, parce que l'histoire vous arrive et vous l'imaginez. Donc ça passe par le creuset de l'imaginaire. C'est donc une réflexion à l'état pur.
On écoute tout de suite une microfiction.
Mes parents avaient pris les enfants pour le mois d'août. Enfermés jour et nuit dans leurs 200 mètres carrés climatisés de la place Bellecour, ils cassaient tout et avaient jeté la veille le complément capillaire de papa dans les toilettes. Tu n'as qu'à demander à la femme de ménage de les aérer au parc. Lyon est une fournaise. Avec Mathieu, nous regrettions d'avoir eu ces trois garçons. À leur place, nous nous serions contentés d'une gamine tranquille s'occupant à copiner avec ses poupées numériques, affectueuses comme des sœurs. Des lapins morts de déshydratation jonchaient le verger. Le thermomètre marquait 41. Au-delà du muret, on voyait des voitures déraper en soulevant des gerbes de goudron en fusion. La cave, où les étés précédents on allait prendre le frais au plus chaud de l'après-midi, était comme un hammam dont on aurait remplacé la vapeur par des effluves de Bourgogne et de Calvados. Mathieu était une masse transpirante. Ses fesses velues collaient leur empreinte moite sur tous les sièges. Il avait même laissé la trace de son corps trempé de sueur au beau milieu de notre couvre-lit bleu de Prusse. La chaleur ne l'a pas empêché de m'attraper par surprise, tandis que je fouillais le frigo du clubhouse à la recherche d'une bière fraîche. La touffeur l'a fait éjaculer avant d'avoir eu la moindre érection. Une coulée poisseuse sur mon maillot de bain, je suis montée furieuse me changer. Aussi bouillante que le jour, la nuit est tombée à 21h. Nous mangions une salade de tomates sur la terrasse. Allons chercher les enfants. Il m'a exposé son plan dans la voiture. Nous sommes arrivés à Lyon avant l'aube. Mes parents nous ont pris pour des hurluberlus. Nous avons jeté les gosses encore endormis sur la banquette arrière, nous étions de retour en fin de matinée. Trompés par les tranches de citron que nous leur distribuions à volonté, les enfants n'avaient jamais soif. Nous organisions de furieux matchs de tennis en promettant aux vainqueurs une usine de chocolat. Quand, malgré nos exhortations, ils ont quitté le cours pour se réfugier à l'ombre des pins, nous avons excité le chien afin qu'il les poursuive et les force à courir comme des tarés. À 16h, un record de température a été battu. Quand le chien a crevé d'épuisement, nous les avons coursés dans toute la propriété avec la Jeep. Au crépuscule, ils haletaient comme des animaux. Nous avons dû les porter jusqu'à la maison. Nous les avons enfermés dans leur chambre et leur avons coupé l'eau pour les empêcher de boire au lavabo de leur cabinet de toilette. le lendemain soir, nous avons constaté qu'ils étaient décédés. Nous avons fait plusieurs fois l'amour sans réussir à concevoir la petite fille dont nous rêvions. Nous avons payé chèrement notre dette à la société de 15 années d'hôpital psychiatrique. Il faudrait un miracle pour que je tombe enceinte à 47 ans. Nous regrettons de n'avoir pas sauvé au moins un des garçons.
Régis Geoffrey, on vient d'entendre la lecture d'une des microfictions, une des 500 microfictions 2018, qui s'appelle Place Bellecour, lue par Oriane Delacroix. Quel effet ça vous fait de réentendre ce texte, enfin, d'entendre ce texte ?
Ben ça m'a fait rire, moi. Ça m'a, il y a des fois où on me demande de lire un texte et je suis pris d'éclat de rire et un peu inextinguible. Oui, ça m'a. Ce qu'il y a, c'est que il y a les enfants qui reviennent et qui reviennent souvent dans les microfictions parce que ce sont les personnages. Je pense qu'au fond, c'est les personnages centraux de notre société. Et que on leur demande tout aux enfants parce que c'est à la fois le présent, l'avenir. Ils doivent contenter cette espèce de fantasme de la société, le fantasme des parents. Et je pense que les enfants refuseraient d'être des enfants s'ils savaient le rôle qu'on va leur faire jouer. Je pense que c'est tout le poids de l'époque qui est sur les épaules des enfants, parce que c'est toute notre espérance en même temps. Et je pense qu'effectivement, le sacrilège suprême, c'est justement des parents qui en viennent à vouloir la fin de leurs enfants. Et là, on est vraiment on n'est même pas dans la comédie, là, on est dans la farce totale, parce qu'on est dans l'impossibilité totale qu'une chose pareille existe, et malheureusement, on s'aperçoit que quand même qu'elle existe. C'est-à-dire qu'il y a parfois des nouvelles qui nous arrivent et on se demande comment la réalité peut se comporter aussi mal que la fiction.
Quand vous dites des nouvelles qui nous arrivent, ce seraient des faits divers ?
Oui, les choses qui nous arrivent sur les téléphones, par alerte. Et des choses qui ne sont même pas possibles. Enfin, moi, j'ai du mal à les lire. C'est-à-dire quand elles arrivent dans le réel. Et j'ai l'impression que c'est un viol de la fiction, à la limite, parce que on dirait que la fiction est tombée dans le réel, comme si c'était une goutte qui avait traversé. C'est-à-dire que le problème, c'est que tout est possible, et que tout ce qui est imaginable peut arriver. Et que c'est un peu le... C'est un peu la conclusion à laquelle on pourrait arriver. Et c'est pas mais la fiction va encore plus loin que le réel, malgré tout. Je pense que Sade est allé beaucoup plus loin que le réel. Et en même temps, il a été en concurrence avec des choses épouvantables. Mais la réalité ne peut pas rire comme la fiction. L'humour qu'il peut y avoir dans une histoire en racontant le genre de choses qu'on a entendues, dans la réalité ne rit pas. La réalité n'est pas ironique. La réalité ne réfléchit pas. Et c'est la différence. La différence entre la culture et le réel, c'est ces dimensions-là. Ces dimensions de la réflexion, c'est les dimensions de l'humour aussi. Voilà.
Et pourquoi la cruauté fait rire, à votre avis ?
Je ne sais pas si la cruauté fait spécialement rire. C'est un peu vous savez, la cruauté, c'est l'incident, c'est la crise. C'est là où il se passe quelque chose qui n'est pas coutumier. Je ne sais pas si la cruauté fait rire à ce point-là.
On peut faire rire, en tout cas, par moment.
Par moment, ça peut faire rire, mais parce que je pense que la fiction, justement, a ce pouvoir. C'est-à-dire, c'est un pouvoir, finalement, de renverser les choses. C'est un pouvoir, c'est une voix. C'est une voix qu'on ne peut pas entendre dans le réel, parce que le réel ne nous est pas raconté. Voilà, je pense que c'est la grande différence. La littérature, c'est le réel qui vous est raconté, qui nous est raconté. On raconte le réel. Alors que le réel se déroule sans que personne ne le raconte.
Vous diriez que vous avez écrit aussi, avec les microfictions, quelque chose qui serait de l'ordre de 500 faits divers ?
Non. Non, je pense pas que ce soit des faits divers. Là, ce qu'on a lu, ça pourrait s'assimiler à un fait divers. Non, 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 je pense que ce sont des histoires qui ne sont ni des faits divers, ni pas des faits divers. Je pense qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'histoires, finalement, on arrive à sortir de soi-même. C'est-à-dire, ce ne sont plus des histoires si personnelles que ça. À part peut-être celle-là où on peut retrouver des choses qu'on retrouve chez moi, le rôle de ces enfants terribles qui sont en lutte avec leurs parents. Enfin, moi, c'est une chose que j'aime beaucoup, cette espèce de façon des enfants qui peuvent entrer en guerre avec les adultes. Et ça m'a toujours intéressé. Mais on retrouve un peu tout le réel. C'est un peu les personnages du réel qu'on va retrouver. Ça c'est le nombre qui fait ça, c'est-à-dire qu'il y a le nombre fait changer de nature quelque chose. C'est-à-dire que si ce livre il y avait 50 histoires ou 200, ça serait pas la même chose que 500. C'est-à-dire que le premier tome avait 500, le deuxième 500, bon c'était assez arbitraire, mais en fait 500 histoires écrites en même temps, j'allais dire dans la même période très courte. C'est justement un roman, c'est pour ça que j'ai noté roman sur la couverture. Et ça, on arrive à un organisme, et qui est un organisme qui est fait de cellules, et qui finalement, on ne peut pas échapper à notre époque ni à la société. Donc je pense que quand on raconte beaucoup, la société se retrouve dans ce qu'on écrit, et on ne retrouve plus seulement soi-même.
C'est une manière de sortir de soi, ce serait presque comme un exercice physique ou spirituel de fiction.
La fiction est un exercice spirituel aussi, comme peut l'être la philosophie ou le théâtre pour des acteurs. Je pense qu'il y a toujours cette dimension de retour sur soi dans une œuvre d'art, quelle qu'elle soit.
Il y a un plaisir aussi particulier qu'on ressent à la lecture des microfictions. C'est le plaisir que vous avez souvent, mais ça depuis longtemps, de l'onomastique, celui d'inventer les noms des personnages. Je pense à des personnages qui s'appellent Monique Rombier ou Xavier Téton. Comment vous les trouvez, ces noms-là?
C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il faut bien les inventer quand il y en a beaucoup. Je les trouve, c'est très simple hein, de trouver des noms de noms de gens. C'est peut-être le degré zéro de l'invention. Non, c'est pas très compliqué, je pense pas.
Il n'y a pas un plaisir particulier?
Je réfléchis pas. Je réfléchis pas. Mais si vous l'inventez des noms, vous verrez que vous en inventez beaucoup. C'est pas la chose la plus difficile au monde.
Welcome to Twin Peaks. My name is Margaret Lanterman. I live in Twin Peaks. I am known as the Log Lady. There is a story behind that. There are many stories in Twin Peaks. Some of them are sad, some funny. Some are stories of madness, of violence. Some are ordinary, yet they all have about them a sense of mystery. The mystery of life, sometimes the mystery of death. The mystery of the woods surrounding Twin Peaks. To introduce this story, let me just say it encompasses the all. It is beyond the fire, though few would know that meaning. It is a story of many, but it begins with one. And I knew her. The one leading to the many is Laura Palmer. Laura is the one.
Régis Geoffrey, c'est le générique de Twin Peaks, et la voix qu'on entend, c'est la voix de l'actrice qui jouait la femme à la bûche dans la série de David Lynch. Quelle place il occupe, David Lynch, dans votre imaginaire?
Moi, j'avais surtout aimé le premier Eraserhead. D'ailleurs, j'avais écrit à l'époque un article dans Art Press. C'était vraiment une chose extrêmement nouvelle. Moi, j'aime bien David Lynch. Twin Peaks, je trouve ça assez oppressant au bout d'un moment. Je suis descendu du train en marche parce que je trouve ça très très oppressant. Et j'ai arrêté.
Ce que dit la femme à la bûche dans le récit qu'on a entendu, elle parle de toutes les histoires. Et les microfictions portent en quatrième de couverture cette mention d'évoquer toutes les vies à la fois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de cet ordre qui s'est joué dans l'écriture de ces nouvelles-là? Comme les récits sont la plupart du temps à la première personne.
Toujours.
de toujours, mais de ventriloquer le monde, quelque chose de cet ordre-là, d'évoquer tous les récits à la fois et d'avoir une espèce d'ambition comme ça gigantesque, d'accumuler les paroles.
Oui, c'est un projet un peu mégalomaniaque, mais comme l'art est toujours mégalomaniaque, la littérature, même la variété est mégalomaniaque. On est tous un peu dans une société où on nous encourage à la mégalomanie. Hein. En même temps, c'est la démocratie, c'est-à-dire que quand un enfant naît n'importe où, il peut être roi de France, c'est-à-dire président de la République, quel qu'il soit. Oui, ben moi, toutes les vies à la fois, c'est l'impression que j'ai eue après l'avoir écrit, justement. Je me suis dit, tiens, il y a toutes les vies à la fois. Alors en même temps, parce qu'il y a beaucoup de vies, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de gens. Voilà, en tenant les 500 histoires, qu'il y avait beaucoup de gens. Quand on prend le livre en main, voilà, j'ai l'impression que ça grouillait de personnes. Pour ça que dans le premier tome, j'avais dit que c'était une foule. Ben voilà, c'est un peu l'impression, c'est une foule, alors en même temps une foule c'est hétéroclite et en même temps c'est homogène. Parce que si vous prenez une foule de 1950 et une foule d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a quelque chose d'homogène dans les deux foules. Et puis selon où vous prenez l'échantillon, voilà. Donc et ça, oui, je pense qu'il y a ce côté-là, cette façon de raconter, quand vous racontez des histoires, c'est extrêmement enivrant. Il y a un côté vraiment, oui, c'est presque un hypnotique, c'est presque une drogue. Il y a ce côté-là, ce côté de toujours raconter, parce que la narration est infinie. Et on a l'impression que des personnages, il y en a toujours, qu'il y en aura toujours. Et qu'ils, alors, c'est pas qu'ils vous attendent, c'est pas des personnages qui poirotent pour qu'on les évoque. Mais quand même, il y a cette notion d'infini, un peu comme dans la musique, où il n'y a que 7 notes, et pourtant, il y a une infinité de mélodies possibles.
Ce que dit la femme à la bûche aussi dans Twin Peaks, elle parle de l'histoire du crime qui est à l'origine de Twin Peaks. Et vous, le crime, c'est un matériau aussi romanesque qui vous intéresse, que ce soit dans les romans ou dans les fictions. Et on peut lire aussi les micro-fictions comme surtout, enfin pas tout le temps, mais souvent des histoires d'assassins. L'assassinat a une place assez importante. Et je me suis dit qu'il y avait un rapport chez vous entre la question de l'assassinat ou du crime et celle justement de la fiction.
Oui, parce que c'est la crise suprême, l'assassinat. C'est la mort, c'est déjà un épisode de crise où beaucoup de choses apparaissent. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, il y a au niveau d'une famille, il y a plein de choses qui apparaissent et qui ne seraient pas apparues. Mais dans l'assassinat, c'est aller au-delà, c'est toucher les limites humaines. Et je pense qu'on passe de l'autre côté. C'est un peu comme celui qui aura fait une tentative de suicide, bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a un risque de répétition dans les deux cas, parce que ce sont des gens qui ont passé une barrière, une sorte de la barrière de la normalité. La barrière de la normalité d'attenter à sa vie et d'attenter à la vie d'un autre. C'est pour ça que c'est souvent répétitif dans les deux cas. Parce que tant qu'on n'a pas commis ça, on n'est pas dans le même monde. Avoir assassiné, c'est avoir mis le pied dans un autre monde qu'on espère ne jamais connaître. Mais l'assassinat, c'est le crime ou le suicide, c'est là où il y a forcément une histoire. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, si on parle de quelqu'un qui sort de chez lui, mais il y a une tragédie dans un assassinat. Forcément, comme il y a une tragédie dans un suicide, comme il y a une tragédie dans des choses plus... comme une interruption de grossesse, il va y avoir quand même... C'est une petite tragédie. Il y a toute une histoire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à raconter quand il se passe un événement pareil.
Merci Régis Geoffrey.
C'est moi qui vous remercie.
Microfiction 2018 est publié aux éditions Gallimard. Merci à Anaïs Isbert, Oriane Delacroix, Lila Bozès, Anne Toscane, Viudès et Anne-Olivia Marchaison qui pensent et préparent cette émission avec moi. Aujourd'hui, c'était Lise Combe à la réalisation et au son, c'était Bruno Gagnère-Fontanille. Pour écouter La Grande Table d'été, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.